Je vous invite à présent à suivre la conférence des presse hebdomadaire des Nations Unies qui est animée par M. Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Charles Bambara, bien sûr, en direct avec vous, directeur de l'information publique de la MONUSCO. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, bien sûr, aux auditrices, aux éditeurs de Radio Okapi et à l'ensemble, j'allais dire, des journalistes de Goma et puis d'ailleurs à travers le monde, car vous savez que cette conférence de presse est diffusée en direct sur Radio Okapi, sur Internet, bien sûr. Au sommaire de cette conférence de presse, comme d'habitude, nous allons ouvrir avec les activités de la MONUSCO et nous allons entendre d'un moment à l'autre parler des activités notamment de UNPOL, la police des Nations Unies. Ensuite, la parole sera donnée à l'équipe pays. Nous aurons tout d'abord Geneviève Delenoy pour le pilier développement. Elle évoquera un projet FAO touchant au monde agricole et donnera ensuite la substance du message de Ban Ki-moon à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée en début de semaine prochaine. Il y aura également des informations sur le PNUD. Le major Faisal Ben Youssef en direct de Goma partagera avec nous quelques informations donc sur la situation militaire générale dans le pays. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Tout d'abord, M. Raphaël Nyabirungu Mwene Sanga, professeur de droit, doyen honoraire à l'UNIKIN, qui nous parlera des états généraux de la justice. Ces états généraux de la justice sont accompagnés par les agences du système des Nations Unies. Il est donc là au titre du pilier développement des agences des Nations Unies. Et comme vous le constaterez un peu plus tard au cours de cette conférence de presse, nous serons rejoints par M. Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, qui, chaque fois que cela est possible, vient à la rencontre de la presse congolaise et du public en général. Voilà donc pour les grands titres de cette conférence de presse que nous allons ouvrir tout de suite et comme d'habitude avec les informations des composantes de la MONUSCO et cela va nous être présenté par Félix Prosper Bass. Bonjour Monsieur Bass.
Bonjour Charles, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi, aux collègues de Goma. Donc la majeure partie des activités de la MONUSCO pour cette semaine se limite à la composante police MONUSCO. Qui a mené ses activités de formation et de remise à niveau d'une durée de 30 jours des formateurs de la police nationale congolaise PNC, initiée par l'école de police Jules Moquet avec l'appui de la police MONUSCO de Bukavu et qui a pris fin le 23 avril 2015. Au total, 24 personnels de la PNC, dont deux femmes, ont bénéficié de cette formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et du transfert des compétences en matière de formation. Dans le cadre des activités de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni-Solib, deux sessions de recyclage initiées par le secteur de Beni au profit des agents de la PNC ont débuté le 20 avril 2015. L'une porte sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public au profit de 110 policiers congolais, dont deux femmes du groupement mobile d'intervention, de la Légion nationale d'intervention et des unités de la PNC du district Ville. Les experts de la police des Nations Unies dirigent cette formation qui prendra fin le jeudi 30 avril 2015. L'autre concerne les renseignements généraux à l'intention de 15 agents, dont une femme du GMI et des unités de la police nationale congolaise du district Ville, bureau 2. Elle a pris fin le vendredi 24 avril 2015. Ces sessions ont été organisées par l'équipe chargée de la mise en œuvre de la SOLIB dans le cadre du renforcement des capacités, mais surtout en vue d'une harmonisation des actions entre les agents PNC et l'unité de police constituée de l'Inde, Indian FPU 1, en vue d'une bonne sécurisation des échéances électorales à venir. À Goma, le chef de bureau de la MONUSCO et le commissaire provincial de la PNC du Nord Kivu ont co-présidé le 27 avril 2015 la cérémonie de lancement de la session de formation de 400 agents de la PNC de Masisi, Rutshuru, Walikale et de la ville de Goma n'ayant jamais bénéficié d'une formation de base. Cette formation accélérée, qui porte sur les rudiments des matières de base de la police, à savoir la police judiciaire, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la protection des enfants, la police de la circulation routière, le droit pénal général, le droit de l'homme, l'éthique et la déontologie, rentre dans le cadre des projets à impact rapide QUIPS, initiés par le secteur UNPOL de Goma et financés par la MONUSCO. La même formation se déroule simultanément à Masisi, Rutshuru, Walikale et Goma pour une durée de 2 mois. L'adjointe au chef de secteur de la police MONUSCO de Bouyan en charge de la formation a ouvert une session de formation d'éléments de la PNC à l'école nationale de police de la localité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de l'école et des formateurs de la police des Nations Unies et de la PNC. Cette session de formation portera sur gestes et techniques professionnelles d'intervention, sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public et l'éthique et la déontologie policière. Elle se tiendra du 27 avril au 15 mai 2015 au profit de 60 apprenants, dont 30 pour les unités de Getty et 30 autres des unités du groupement mobile d'intervention GMI, de l'escadron mobile d'intervention EMI de l'Ituri. Elle entre dans le cadre des projets à impact rapide initiés par le bureau MONUSCO Ituri. Donc voilà, Charles, en substance, ce qui concerne les activités menées par la police UNPOL. Toutefois, je ne saurais terminer sans annoncer une note positive concernant la libération des trois agents kidnappés par le ravisseur après une captivité de 5 jours dans le territoire de Nyiragongo le 23 avril 2015. Et bien, ces agents qui travaillent pour une compagnie privée de déminage sous contrat avec le service de lutte anti-mine des Nations Unies ont été libérés hier après 5 jours de captivité. Donc voilà en substance, Charles, ce que j'avais à dire ce matin à nos auditeurs et aux collègues de Goma et de Kinshasa.
Merci donc à Monsieur Félix Prosper Bass, porte-parole donc de la MONUSCO, et cela nous amène tout droit à aller à l'équipe pays maintenant, et nous allons rejoindre Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
Beaucoup d'informations, je crois, sur la FAO, l'UNESCO et le PNUD, je crois.
Oui, bien vu, merci. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour aux collègues de Goma et à ceux de Kinshasa. Je commence avec la FAO qui a organisé un atelier les 21 et 22 avril dont le thème était « Faciliter le développement des liens et la mise en relation entre les micro, petites et moyennes entreprises agricoles de la filière manioc et des institutions de microfinance et des banques commerciales, ceci devant permettre l'accès au microcrédit ». En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote sur la promotion de la chaîne de valeur du manioc en RDC, la FAO a réussi à structurer 12 micro, petites et moyennes entreprises agricoles de la filière manioc qui se sont positionnées dans le maillon de la production, de la transformation et de la commercialisation. Et cet atelier de la FAO était l'occasion pour ces mini, micro, petites et moyennes entreprises de rencontrer des organismes de microcrédit et autres institutions financières pour consolider des plans d'affaires et concrétiser cela sur le terrain. Comme vous le savez, chaque année, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse qui est célébrée. Et cette année, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, ont épinglé les horribles attentats commis récemment contre les journalistes. Au moins un journaliste est tué chaque semaine dans le monde, dans le cadre d'un conflit ou non. En ce qui concerne la RDC, sous le haut patronage du Premier ministre, l'UNESCO, le ministère des médias et des associations de presse, organise ce lundi 4 mai la première journée déontologique de la presse congolaise. Le thème, c'est le rôle des médias pour les élections apaisé en RDC. Et je signale encore que dans le message émanant de Ban Ki-moon, d'Irina Bokova et du haut-commissaire aux droits de l'homme, ils se sont inquiétés du faible pourcentage de femmes dans les médias, aussi bien dans la création que dans la production d'informations. L'UNESCO a organisé un atelier de validation du plan de communication du projet portant sur le renforcement des capacités nationales pour la formation continue des enseignants en République démocratique du Congo. Des experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, des experts de l'ambassade de Chine, du service national de formation et de la direction de programmes scolaires et matériels didactiques ont pris part à cette activité. Ce projet mis en œuvre par l'UNESCO est financé par la Chine à hauteur de $1,300,000. Il veut répondre à la déficience constatée en matière de formation initiale des enseignants en RDC et dans de nombreux pays africains. Le projet vise à améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Il permettra de mettre en place un dispositif dynamique, opérationnel et efficace de formation continue des enseignants basé sur les technologies de l'information et de la communication. Ceci en vue de perfectionner les pratiques d'encadrement et d'enseignement-apprentissage des structures de formation continue des encadreurs pédagogiques et des enseignants. Je termine avec le PNUD qui, avec d'autres bailleurs tels que la MONUSCO, l'ambassade de France, le programme d'appui à la réforme de la justice, l'Union européenne et la Suède, le ministère de la Justice et des Droits humains et le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que la présidence de l'État, ont organisé les États généraux de la justice. Certains d'entre vous étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture lundi et ils ont pu entendre le discours très fort du président Joseph Kabila Kabange, qui a notamment dit que s'il a demandé au gouvernement d'organiser ses présentes assises, c'est qu'en dépit des avancées enregistrées sur le terrain des réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits en ce qui concerne et qui intéresse le justiciable. Il a également signalé qu'il importait de changer les mentalités et que la justice doit avoir un comportement exemplaire et respecter le citoyen. Alors, ces états généraux de la justice sont une grande première. Nous avons comme invité spécial aujourd'hui le professeur Raphaël Nyabirungu, qui est connu de beaucoup parmi vous, qui est professeur de doyen honoraire de l'université de Kinshasa et professeur de droit. Il répondra à toutes vos questions tout à l'heure. Je signale simplement que ces états généraux de la justice, ce ne sont pas de simples discussions, mais que l'essentiel est de faire un diagnostic précis de la situation de la justice et que vraiment des réformes et des actions prioritaires sont attendues. La cérémonie de clôture a lieu samedi 2 mai. Merci pour votre attention. Un communiqué de presse vous attend à la fin de cette conférence. Merci.
Voilà, merci donc à Geneviève Delenoy pour ces informations. Pas d'informations sur l'humanitaire, mais comme vous le voyez dans la salle, l'incontournable Sylvestre Tunga Mudigayi est là et pourra éventuellement répondre à d'éventuelles questions. Tout à l'heure, nous donnerons bien sûr la parole au professeur pour un petit mot avant qu'on arrive à la session des questions-réponses. Direction tout de suite Goma, nous allons retrouver donc le major Faisal Ben Youssef, porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO. Général, du moins, major, c'est à vous, pardon.
Bonjour Monsieur Charles, bonjour tout le monde. L'ouest de la République démocratique du Congo a été jugé calme pendant la période sous examen. Toutefois, au Bas-Congo, un individu est décédé au cours des manifestations organisées le 23 avril 2015 pour protester contre la montée du crime et de l'insécurité à Mwanda, situé à 210 km à l'ouest de Matadi. Le climat sécuritaire dans la province orientale a été marqué par les activités négatives perpétrées par les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur dans les districts de Haut et de Bawele, principalement sur les axes Dumbu-Faradje, Dumbu-Ngilima. Le 20 avril 2015, dans le territoire de Dumbu, 14 éléments supposés appartenir à la RLRA parlant Acholi et Lingala ont fait incursion dans la localité de Pingba, 7 km à l'est de Ngilima, molester une femme, piller des denrées alimentaires et kidnapper 4 hommes et une femme. Alertés, les troupes d'intervention rapide des FRDC déployées dans la zone ont promptement été déployées pour traquer l'ennemi, secourir les victimes et dissuader de nouvelles attaques dans la région. Le 25 avril 2015, une patrouille conjointe MONUSCO-FRDC a été rapidement projetée dans le parc national de la Garamba pour contrer l'attaque des éléments de la LRA ayant provoqué la mort d'un garde forestier, traquer les assaillants et sécuriser la zone. En Ituri, la force de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises maintiennent la pression militaire contre les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, auteurs de nombreuses exactions contre les populations civiles dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Le 22 avril 2015, trois assaillants du FRPI ont été tués, un militaire des FARDC blessé suite au combat survenu au village Kapalaï, 20 km à l'est d'Abeba, où 36 maisons ont été incendiées, une femme et son bébé brûlés par les insurgés. Trois mitrailleuses ont également été récupérées par les militaires congolais. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire a été dominé par les opérations menées par l'armée congolaise, soutenues par la force de la MONUSCO, contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques dans le territoire de Beni. En effet, dans la nuit du 23 avril 2015, 5 individus ont été tués et 12 maisons incendiées par des éléments supposés appartenir à l'ADF dans le village de Kalambo, 8 km à l'ouest d'Olcha, proche du village Kitevia, situé dans la localité de Bakila, Tenembo du groupement de Batangi Mbao. En outre, 4 éléments de l'ADF ont été tués et 2 autres appréhendés au cours d'opérations menées par les FARDC dans la région de Mayangose, située à approximativement 7 km à l'est de Beni. Le 24 avril 2015, un chef rebelle de l'ADF a été tué au cours d'une embuscade tendue par les FARDC entre le mont Jago et la rivière Bango. Le 27 avril 2015, des combats ont opposé les FARDC et les rebelles de l'ADF dans les régions situées autour de la localité de Bango, environ 7 km à l'est de Kainama. Un groupe d'environ 200 éléments, comprenant d'autres chefs rebelles, des combattants de l'ADF et des défendants, ont fui le camp de Bango suite à cette offensive de l'armée congolaise. Des rapports ont également fait état de la découverte de 5 fosses communes, contenant 47 corps dans le camp de Bango. La MONUSCO a déployé sur les lieux des équipes constituées de membres des sections substantives, notamment la section des droits de l'homme, dans le but d'enquêter sur cette affaire. Pendant la période sous examen, l'activisme des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda a également été rapporté dans certains territoires de la province du Nord Kivu. L'armée congolaise poursuit à cet effet sa lutte contre les FDLR dans la province suspensionnée par la conduite de l'opération dénommée Sukula 2. Au chapitre des redditions, dans la province, du 29 avril 2015 à ce jour, 21 éléments en provenance des groupes armés se sont rendus aux troupes de la force onusienne déployée dans la province. Il s'agit de 5 de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, 10 des forces démocratiques de libération du Rwanda, 3 du groupe Maïmaï Raya Mutomboki, 1 du groupe Maïmaï Mark et 2 de la force de défense congolaise. Au sud Kivu, en dépit de l'activisme des groupes armés et des incidents rapportés dans les régions frontalières, l'environnement sécuritaire est demeuré sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises durant la semaine écoulée. En effet, le 23 avril 2015, des éléments armés supposés appartenir au groupe Maïmaï Raya Mutomboki faction Lukoba ont tendu une embuscade et kidnappé 4 individus en déplacement dans un camion transportant des denrées alimentaires aux déplacés à Chisondou, situé à 32 km au sud de Walungu. Des troupes d'intervention rapide onusiennes et congolaises ont immédiatement été déployées sur les lieux de l'incident dans le but de sécuriser la région. Au Katanga, la situation sécuritaire reste dominée par les conflits ethniques entre les communautés Luba et Pygmé. Le 21 avril 2015, 10 femmes de la communauté Luba ont été kidnappées et violées par des miliciens pygmées dans la localité de Mwangé, 140 km au nord-est de Manono, située sur l'axe Niemba-Mukebu. Le 23 avril 2015, plusieurs maisons ont été incendiées au village Kalamba, 18 km au sud de Nyunzu, au cours d'incursions des combattants pygmées, provoquant le déplacement des populations civiles vers les localités de Mouya, 15 km au sud de Nyunzu, Mukenza, 8 km au sud de Nyunzu et à Nyunzu Centre. Toutefois, les forces onusiennes et congolaises maintiennent la situation sécuritaire sous leur contrôle dans cette province. Le climat sécuritaire est calme dans le secteur 2. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1648 patrouilles armées, dont 548 nocturnes, et fourni 56 escortes pendant la période sous examen. Merci.
Major Faisal Ben Youssef, porte-parole par intérim de la MONUSCO, merci. Je vois que vous avez à vos côtés le général Jean Bayou, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, qui se fera sans doute le plaisir de répondre aux questions militaires pendant cette conférence de presse. Et cela nous conduit tout droit vers notre premier invité que j'annonçais tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Raphaël Nyabirungu Mwenesonga, professeur de droit et doyen honoraire à l'UNIKIN. Bonjour et bienvenue, professeur, à cette conférence de presse des Nations Unies. C'est à vous.
Bonjour. Mesdames, messieurs, monsieur le représentant du secrétaire général, je suis ici en qualité de modérateur et porte-parole des États généraux de la justice qui ont siégé ou qui siègent encore depuis le 27 avril 2015. Il s'agit d'une manifestation de la volonté politique de changer l'état des choses dans le domaine de justice, de bouger les lignes afin que la justice connaisse des avancées significatives sur la voie de son redressement. Les citoyens et les habitants de notre pays se plaignent. Les observateurs parlent et la presse dénonce. Et la question lancinante, récurrente, se pose. Avons-nous encore une justice dans ce pays? Une justice qui tranche les litiges au nom de la loi et de la vérité. Une justice qui protège les faibles contre les plus forts. Une justice indépendante. Indépendante des autres pouvoirs exécutifs, législatifs, mais aussi des médias. Indépendante de la province, de l'ethnie ou de la tribu. Indépendante de l'argent. Cet argent facile, cet argent qui corrompt tout, cet argent qui tue. Certaines personnes pensent que cette justice-là est morte et parlent même d'autopsie. Cette opération faite sur les cadavres et qui n'a jamais ressuscité personne. Si les états généraux étaient une autopsie, il serait déjà un échec. Mais les états généraux de la justice répondent à l'initiative de nos responsables politiques qui croient que la justice existe. Qu'elle est certes malade, mais que son cas n'est pas désespéré. Voilà pourquoi, à la place de l'autopsie, il parle de diagnostic. Il s'agit d'un acte à poser sur un corps vivant, mais qui peut vivre mieux. Les états généraux de la justice réunissent quelque 300 participants, venus de tous les horizons, des magistrats civils et militaires, des magistrats actifs et retraités, des avocats, des représentants de la société civile, des professeurs d'université, qui tous affichent en commun l'amour de leur pays et l'amour de la justice pour leur pays. Ils sont conscients que la paix et le développement de la RDC passent par la justice. C'est pourquoi les États généraux veulent être l'instance d'une réflexion approfondie, consacrée à quelques thèmes qui ont été identifiés comme autant de pistes à explorer et à emprunter pour évoluer vers une justice juste, indépendante, impartiale, protectrice de l'individu, des libertés fondamentales et des institutions républicaines. Les thèmes suivants seront traités. 1. Organisation et compétences judiciaires, thème qui nous permettra notamment de donner à la coutume la place qu'elle mérite dans l'administration de la justice. 2. Organisation des professions judiciaires et du personnel administratif et autres auxiliaires de la justice. 3. Accès à la justice avec les questions irrelatives, telles que la justice rendue par les tribunaux de paix. 4. Sécurité juridique des investissements ou la contribution du droit et de la justice à l'amélioration du climat des affaires. 5. La justice pénale, de la détention préventive à l'exécution des peines. 6. L'administration pénitentiaire et les problèmes des infrastructures, de la santé et de la réinsertion des détenus. 7. Les réformes de la justice et leur financement. 8. La lutte contre l'impunité, en portant une attention particulière à la corruption, aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux viols et violences sexuelles. Nous nous réunissons donc avec la conscience des enjeux en présence et des défis à relever. Mais si les États généraux, par leur analyse et recommandation, pouvaient être l'occasion d'une prise de conscience collective, d'un éveil et d'un changement de mentalité dont a parlé le chef de l'État pour la paix sociale en RDC, alors ils auront atteint leur but et mériteront d'être célébrés comme un moment fondateur d'une justice forte et indépendante. Je voudrais, pour terminer, attirer votre attention sur le fait que les États généraux n'ont pas encore terminé leurs travaux et que donc, s'il y a quelques questions à me destiner, il ne faut pas me conduire à donner des conclusions à la place de ceux qui sont en train de discuter maintenant et qui ne livreront leurs conclusions que samedi le 2 mai. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, professeur Nyabirungu, donc pour cet exposé liminaire et qui va nous donner sans doute quelques questions vers la fin de cette conférence de presse. Nous passons tout de suite la parole à notre deuxième invité qui n'est plus à présenter, Martin Kobler. La semaine dernière a été une semaine chargée pour vous, hein, notamment avec la visite de Hervé Latsous, le secrétaire général adjoint des missions chargées du maintien de paix dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un bref compte-rendu de cette visite?
Voilà, merci bien Charles aussi. Merci bien professeur Raphaël Ndiabirungu pour cet exposé. Et c'était très très bien fait avec aussi votre langage très descriptif. Chers auditrices, auditeurs de Radio Cap et chers membres de la presse ici à Kinshasa, à Goma. Oui, tout à fait. C'était une semaine bien chargée avec la visite du secrétaire adjoint qui est responsable pour toutes les opérations de maintien de la paix, M. Hervé Latsous. On était ici à Kinshasa, on a parlé avec alors le président Kabila, avec le premier ministre au cœur, naturellement, c'était la visite ici, la réunion avec le président, mais aussi le ministre Tubane et les autres ministres du cabinet, mais aussi opposition, société civile et aussi les ambassadeurs ici. On s'est déplacé puis à Goma, à Bukavu, pour dire au revoir dans le cadre de la stratégie de départ de la MONUSCO pour 850 soldats égyptiens. Ils seront rapatriés et dans une petite cérémonie, M. Latsous les a remerciés pour leur service ici. Et aussi, ça, on doit dire, il a aussi participé à Radio Capi. Radio Capi, dans, je crois, Dialogue entre Congolais, oui, parole aux auditeurs. Alors, les auditrices, auditeurs de Radio Capi ont eu la chance de l'écouter aussi. En substance, on s'est concentré sur deux choses. La première chose, c'est la reprise des opérations à l'Est, la reprise du soutien pour les FRDC, en particulier dans le combat contre les FDLR. Vous savez, c'est un peu bloqué depuis quelques semaines maintenant. Et on a discuté avec aussi le chef de l'État, mais aussi les ministres, le premier ministre, les effets de la non-coopération. Et je dois ajouter aussi, monsieur Latsous, à l'Est, il a visité Nyamilima. Il a voulu savoir lui-même les effets de la non-coopération à Nyamilima. Il a parlé avec des gens, il a discuté avec la société civile, avec les mamans, avec des organisations. Et le peuple de Nyamilima, qu'est-ce qu'ils attendent de cette coopération entre les FRDC et les FDLR pour voir avec ses propres yeux la situation sur le terrain. Alors la reprise des opérations, c'était une chose. La deuxième chose, c'était la revue stratégique, la stratégie de départ de la MONUSCO. Comme j'ai dit, on a déjà commencé avec la réduction des troupes sous cette résolution 2211. Je l'ai déjà expliqué auparavant, ce sont 2000. On est en discussion avec le gouvernement dans le cadre du dialogue stratégique sur les délais et la réduction de la MONUSCO au-delà, parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que la MONUSCO doit partir du pays. C'est la question, comment le faire, dans quel délai, graduellement. Et je suis, Monsieur Latsous a aussi discuté avec le ministre Tshibanda qui gère ce dialogue stratégique dans nos réunions régulières, normalement le mercredi après-midi, et les sous-groupes, les groupes thématiques sur les élections, sur la réduction, la revue stratégique, mais aussi les droits de l'homme et d'autres groupes thématiques. Voilà, c'était la visite la semaine dernière. J'étais très très satisfait que M. Latsous était ici pour nous soutenir, mais aussi d'obtenir une impression lui-même sur l'État ici. Je dois dire que les entretiens avec le gouvernement de Latsous, avec le gouvernement aussi, nos relations se déroulent dans un esprit vraiment de cordialité entre-temps, de confiance et de constructivité. Nous sommes ensemble maintenant, je crois, je suis ici maintenant plus d'une année et demie. Nous n'avons jamais eu une telle, des réunions tellement intensives avec le gouvernement dans les mois, dans les années passées, comme maintenant. Ça se déroule dans l'esprit de constructivité, cordialité et aussi de confiance.